Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Nous continuons à louer le Seigneur, à le remercier dès qu'il nous donne l'opportunité d'être ensemble chaque jour. Chaque fois que nous sommes ensemble, eh bien, il faut avoir les mains en l'air pour dire merci Seigneur. C'est une grâce imméritée. Et nous voulons dire à notre frère Jocelyn notre contentement qu'il soit parmi nous ce matin et que Dieu te bénisse. Nous allons lire une portion de l'Écriture dans Amos. Amos, c'est le chapitre 5 et le verset 6. Amos, chapitre 5, le verset 6. Concernant le livre d'Amos, dans l'étude biblique ce matin, Pasteur Aldo a touché tous les points concernant le peuple Israël. Et dans ce livre, cette histoire reflète tout ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, tout ce qui se passe est dans ce livre. Et Pasteur Aldo avait touché point par point. Le verset 6 du chapitre 5. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Parole du Seigneur. Et le sujet de notre prédication, c'est la première phrase impérative du verset. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Dans toute société active, il arrive des moments lamentables qui imposent des décisions. Quand l'immoralité, l'impunité, l'insubordination, l'injustice fait la loi et se dresse comme normal dans une société, c'est le désordre total où tout le monde fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Alors devant une telle situation, ces dirigeants doivent prendre des décisions judicieuses, soit dans une famille, soit dans une organisation quelconque. Amos, il est originaire de Judée, près de Jérusalem. Il était un éleveur de moutons et de chèvres, de conditions aisées. C'est dans cette période de prospérité économique et de stabilité politique qu'Amos a reçu l'appel de Dieu pour aller proclamer sa parole dans le royaume du Nord. Et le message était clair. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Économiquement, le pays était prospère. Mais cette prospérité ne bénéficiait qu'à une petite partie de la population. La classe dirigeante croissait ses richesses et accumulait ses fortunes. Mais la classe dirigée était piétinée. La classe dirigeante avait des maisons d'hiver. Quand il fait froid, ils sont partis dans un autre endroit. Et des maisons d'été, quand il fait chaud, ils se dirigent vers cette maison. Pendant que les pauvres ne possédaient même pas une chaumière pour se reposer. Est-ce que c'est différent dans le monde d'aujourd'hui? Non. Ce n'est pas différent. La classe dirigeante mène une vie de luxe, jouit du meilleur confort et s'abandonne à l'euphorie, disant que l'Éternel est avec nous. C'était quand, dans le psaume 70, il y avait, et l'auteur de ce psaume, mais qui dit, regarde le monde, les riches, comment ils sont, tout va bien. Hein? Psaume 70, 71, 73, Asaph. L'Éternel est avec eux. C'est comme si l'Éternel, c'est pour les riches, il n'était pas pour les pauvres. Ils s'étaient considérés comme parfaitement à l'abri de tout désastre, selon Amos chapitre 4, verset 4. Alors, qui peut résister aujourd'hui à cette pandémie qui frappe à toutes les portes? Qui peut? Au début de cette maladie, beaucoup de gens avaient prophétisé, beaucoup de révélations. L'Esprit me dit, aujourd'hui, on ne les entend plus sur les réseaux sociaux. Ils donnent des médicaments. Ils vous disent que l'Éternel avait dit ceci, l'Éternel avait dit cela. Des révélations partout et à tort et à raison. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Donc ces faux prophètes, on ne les voit pas. Et déjà, ces songeurs que l'Éternel n'envoie jamais dire quelque chose. Ce n'est pas des prophètes de Dieu. Et le silence, c'est le triomphe de la vérité sur le mensonge. Jean de La Fontaine se sert des animaux pour instruire les hommes. Voici ce qu'il a écrit dans la fable « Les animaux malades de la peste ». Si vous voulez, quand vous arrivez chez vous, vous pouvez chercher cette fable, hein, pour voir tout le texte. Et je tiens ces trois vers. Il a dit, dans les animaux de la peste, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes sur la terre. Jean de La Fontaine. Oui, il existe des crimes économiques. Il y a des crimes économiques. Ce n'est pas seulement des pénales, des civils. Il y a des crimes économiques. Quand les gens de la population sont laissés pour compte, ne bénéficient pas de la prospérité. Alors qu'au contraire, les grands abusent de leur pouvoir et de leurs moyens pour se livrer contre les infortunés à des actes de violence, à l'oppression et aux extorsions de biens. Il n'y a rien qui change. Les riches vivaient dans l'oisiveté et les plaisirs, tandis que les pauvres devenaient la cible d'une exploitation juridique et économique. Salomon dit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice élève une nation et le péché en est la honte. » En Israël, la justice était corrompue dans les tribunaux. Et si on ne trouve pas cette corruption, peut-être en France, entre guillemets, sortez, laissez la France aller dans les autres petits pays pour voir que la justice s'est vendue comme de pâté chaud. Vous avez de l'argent, vous achetez. C'est la justice des jungles, où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Les indigents se font exploiter. Une fois dépossédés de leurs terres, ils sont réduits à l'esclavage pour payer leurs plus petites dettes. Aujourd'hui, c'est l'esclavage moderne. Oui, c'est l'esclavage moderne. Dans les restaurants, dans les bâtiments, dans les usines, dans les hôtels, dans les maisons de retraite, et même dans les administrations publiques et privées. Il n'y a rien qui change. Alors, tout salarié devait être en mesure de satisfaire et leurs besoins socio-économiques et matériels. Et pourtant, ils sont toujours des débiteurs des banques. Un ancien président haïtien avait dit « L'argent des pauvres dans les pays riches enrichit les riches dans les pays pauvres. » C'est une phrase forte. L'argent des riches, l'argent des pauvres dans les pays riches enrichit les riches dans les pays pauvres. Mais il n'avait pas donné l'exemple. Parce que lui aussi, il en profite pour devenir millionnaire. Les servantes sont victimes de toutes sortes d'abus chez les maîtres et les maîtresses. À la veille de la Révolution française, une servante était pendue pour avoir volé une paire de draps à sa maîtresse. À présent, voler une canette, on va en prison. Et pourtant, voler des millions, on est libre comme le vent. Et pourquoi? Dieu ne tolère pas l'injustice. Il n'est pas content avec ceux qui exploitent, avec ceux qui détruisent les petits peuples, les ouvriers. Dieu n'est pas content. Regarde ce qu'il a dit dans Amos chapitre 4, verset 1 à 3. Écoutez cette parole. Génisse de Bazan qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasait les indigents et qui dit à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par des brèches, chacun devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Entre les riches et les défavorisés, creuse un fossé d'inégalité qui conduit au désordre social. Rousseau avait cherché en vain l'origine de l'inégalité sociale. Par exemple, en France, les Français étaient répartis en trois classes: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change aujourd'hui? Non? Selon l'expression du cardinal de Richelieu, il dit, le paysan du tiers-état était le mulet de l'État. Vous savez qui est mulet? Mulet, c'est le produit d'une âne et d'un cheval. Le mulet ne reproduit pas, mais il est fort. Et pourquoi il a dit que le tiers-état est le mulet de l'État? C'est parce que toutes les charges pesait lourdement sur les dos. Alors, la revendication des gilets jaunes ne nous laisse pas indifférents aujourd'hui. Ça ne finira jamais. Tant que Jésus-Christ ne descendra pas sur la terre, ça ne finira jamais. Aux États-Unis, on ne peut pas dénombrer des Américains qui sont morts parce qu'ils n'ont pas d'assurance pour payer leurs soins médicaux. Première puissance du monde, première puissance économique mondiale. Dans le premier discours du président français pendant la pandémie, il a relaté deux phrases qui retiennent mon attention. Il dit que les situations actuelles creusent les inégalités sociales et nous oublions que nous sommes tous vulnérables. Fin de citation. Fort souvent, on voit seulement que c'est pour les petits. Mais il n'y a pas de différence entre nous, puisque nous sommes tous des humains. Nous avons les mêmes besoins. Nous respirons les mêmes oxygènes. Nous marchons de la même façon. Alors, heureusement, nous pouvons jouir et réjouir ce matin d'être en Christ. Car en lui, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni libre, ni esclave. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et c'est là notre joie. Ce matin, Aldo l'avait mentionné, c'est dans Galates chapitre 3, verset 28, où Paul dit, dans l'église de Jésus-Christ, et dans le peuple de Dieu, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni libre, ni esclave, ni femme, ni enfant, ni homme. Nous sommes tous égaux. Et on ne trouve pas ça ailleurs. C'est seulement dans l'Église qu'on trouve cette égalité. Ainsi, Amos a souligné la toute-puissance de Dieu, sa majesté, son autorité et sa souveraineté. Et il dit au peuple, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner, non vers les idoles. Le peuple était idolâtre. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Ah non. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, mes frères et sœurs, est idolâtrie. Tout. L'or, l'argent, les vêtements, la télé, les séries, les biens matériels, tout préoccupe nos attentions. Pourtant, dans la liste, il n'y a pas Dieu. Dans la liste, il n'y a pas Jésus. Amos dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas un Dieu dont on peut acheter les faveurs par des dîmes et des offrandes. Parce que fort souvent, nous sommes venus ici, nous donnons des dîmes, nous donnons des offrandes, eh bien, Dieu, il va nous bénir. Non. Regardons ce qu'il a dit dans Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Dans le verset 21 à 24. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends point aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais n'est tari. Ça veut dire, si vous venez ici ce matin, vous chantez pour la gloire de Dieu, s'il n'y a pas cette bonne relation, c'est foutu. Vous chantez dans l'air. Vous venez ici à l'église pour adorer Dieu, eh bien si ce que vous faites, Dieu ne prend plaisir pas là-dedans, ça veut dire, c'est laver-main et vous passez par terre. Dieu, il prend plaisir dans la louange. Il prend plaisir dans les vraies adorations. Parce que c'est lui qui dit, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. La vie spirituelle des Israélites était dégradée. Le culte de l'Éternel était marqué de formalisme et d'hypocrisie. Beaucoup de croyants, beaucoup de frères et sœurs viennent ici pour la forme. C'est un dimanche, je ne fais rien chez moi, j'ai l'habitude de venir à l'église, je viens. Sans la disposition spirituelle pour donner une adoration fiable à Dieu. C'est de la forme. Si c'est comme ça, nous servons en vain notre Dieu. Hypocrisie, faire semblant. Faire semblant que vous m'aimez, faire semblant que vous acceptez, et pourtant dans le cœur, c'est différent. Dieu ne tolère pas l'hypocrisie. Il faut que votre oui soit oui, il faut que votre non soit non. Parce qu'il est lumière, il ne peut pas tolérer des choses cachées. Tout doit être nu. Les mauvaises choses se font toujours dans la noirceur, dans les ténèbres. Tout ce qui est fait en plein jour, c'est des bonnes choses. Hein. Il faut enlever dans nos cœurs l'hypocrisie que Dieu ne tolère pas. Ce culte était contaminé par des rites d'immoralité et des cérémonies fastueuses qui remplacent la vraie piété que Dieu demande. Amos nous envoie dans le chapitre 8 et le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Je changerai vos fêtes en deuil. Et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sac tous les reins. Et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil. Comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Dieu, c'est un Dieu de justice. Son jugement ne fait acception de personne. Personne. Vous faites le bien, vous allez recevoir votre récompense pour votre bien. Mais si vous faites du mal, vous allez recevoir votre récompense pour le mal. Dieu, il est la balance. Hein? La balance, il y a deux plateaux. Vous mettez un poids de 50 kilos à droite, un poids de 60 kilos à gauche, il va y avoir un déséquilibre. Alors, c'est pour toutes ces raisons que Dieu a envoyé Amos auprès du peuple pour annoncer le châtiment que l'Éternel tient en réserve. Et si vous lisez, regardez dans le chapitre 1er de Amos, on va voir tous les pays de Damas à Israël qui va subir le jugement de Dieu. 8 pays. Oui, 8 jugements. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu s'il n'y a pas un changement dans les cœurs. Heureusement pour chacun de nous qui a déjà le Christ dans notre vie, nous ne sommes pas à subir les jugements de Dieu parce que nous sommes déjà jugés. Mais si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes exposé à ce jugement. Et ce jugement sera très dur. Personne ne peut échapper de l'enfer que Dieu a préparé pour Satan avec ses acolytes, avec ses disciples, avec ses anges. Vous êtes le disciple de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais si vous ne l'êtes pas encore, il faut chercher à l'être parce que demain, ce sera trop tard. Dieu ne rigole pas avec le péché, avec l'injustice. C'est Dieu qui peut transformer le cœur de l'homme. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout il est méchant, qui peut le connaître? L'homme est méchant, son cœur est dur par l'orgueil, pour de petites choses il y a explosion, pour de rien il y a inimitié. Ça veut dire le cœur ne tolère rien quand c'est dur. Mais vous savez, Dieu peut changer ce cœur de pierre en un cœur de chair. Mais il faut le chercher, il faut l'accepter. Et Matthieu, il va dans le même sens. Dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est le cœur qui a besoin d'être changé, transformé. Et qui peut le faire? Seulement l'Éternel des armées. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amos nous a laissé un exemple à suivre dans son message. Alors, aujourd'hui, quelle place tient la justice sociale dans la prédication de l'Église? À travers le monde, il y a message, hein? Il y a prédication. L'Église, c'est nous, hein? Comme Aldo l'a bien expliqué ce matin, l'Église, c'est la communauté mise à part pour un service spécial. C'est nous qui avons le message à présenter au monde entier. Alors, dans nos prédications, dans nos messages, quelle place il y a? Pour la justice sociale. La justice sociale, c'est la justice selon notre société. Nos frères et sœurs qui sont parmi nous, les gens que vous trouvez en dehors, qui sont en difficulté, qu'est-ce que vous faites pour eux? Quand les gens ont faim, est-ce que vous leur donnez à manger avant de leur présenter la parole? Ah, vous voulez que j'accepte votre parole? Votre message, pendant que je dors dans la rue, sans personne pour me donner un lit. Quand ta famille n'a pas d'oreille. Quand j'ai faim, vous allez me parler de la parole de Dieu. Comment je vais l'accepter? Mais non. Jésus, il donne à manger. Quand nous étions malades, Jésus nous a guéris. C'est ce qu'il avait fait avec les disciples. Il les donne à manger, il les donne à boire. Et voilà pourquoi quand dans Matthieu 25, si j'ai bonne mémoire, quand il dit à Jésus, Jésus s'est plaint pour dire, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais dans les prisons, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Mais il dit, maître, mais c'est quand tu étais en prison, nous n'avons pas visité. Mais chaque fois que vous avez pas fait ces petites choses à l'un de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Dans nos prédications, qu'est-ce que nous disons? Quelle place tient la justice sociale dans nos comportements en tant que membres de l'Église? Nous habillons pire que les païens d'ailleurs. Notre comportement n'apporte pas un message positif pour encourager ceux qui sont dehors à rentrer. Nos paroles, notre façon d'agir n'est pas différente. Au contraire, c'est le pire. Et je vais redire encore ce passage dans 1 Corinthiens, sur l'étude d'Aldo, dans 1 Corinthiens 5, si j'ai bonne mémoire. Ah, Paul a étonné de voir ce qui se passe à l'Église est pire que ce qui se passe dans le monde. Alors, l'épître de Jacques nous montre que ses préoccupations n'ont pas disparu des yeux de Dieu avec la nouvelle alliance. Parce que Dieu, il est le défenseur des veuves, des orphelins, des laissés pour compte et des pauvres. Alors ce matin, chaque croyant est un envoyé de Dieu pour dire au monde entier qu'il est à se repentir. Sinon, ils ne vont pas être échappés au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, ça viendra. C'est une affirmation. Dieu laisse tout faire par sa souveraineté. Il laisse par sa volonté, parce que tout ce qui se fait dans le monde, c'est parce que Dieu veut. S'il ne le voulait pas, ce ne sera pas arrivé. Ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. Il permet que ça arrive. Mais quand Dieu dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, c'est fini. Nous devons tous être des envoyés de Dieu parce que nous avons le message comme Amos pour dire à ce monde en péril qu'il est à se repentir. Sinon, la colère de Dieu va tomber sur eux. Est-ce que nous faisons ce travail d'évangélisation pour annoncer au monde entier ce que Dieu a dit? Regardez ce qui est écrit dans Amos chapitre 4. Dans Amos chapitre 4, le prophète dans le verset 6, l'Éternel, il vous met dans une situation pour revenir. Parce que son amour, il est comme ça. Quel que soit ce que vous faites de mal, il a toujours laissé une porte. Viens, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Reviens, malgré vos péchés, reviens. Repentez-vous, reviens. Quand j'ai lu ces passages, à la vérité, j'ai envie de pleurer. Verset 6. Je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans tous vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 9. Je vous ai frappé par la houille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste. Le coronavirus, c'est une peste aussi. Comme en Égypte. Et j'ai laissé prendre vos... Et j'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. C'est pour nous montrer combien nous sommes rebelles. Nous ne voulons pas nous repentir. Rester dans la même situation, c'est comme si de rien n'était. Ah, ça, c'est des paroles vaines. Et ça peut être le langage d'un père, le langage d'une mère qui voit son enfant partir. Je vous fais ça, je vous fais ça, je vous fais ça. Vous ne m'écoutez pas. Reviens. Ah oui, l'Éternel, il a montré ici son amour, sa miséricorde, sa bonté qui ne finit jamais, mes frères. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Jésus est la source et le moyen et de subsistance de l'ensemble de la vie, sous quelque forme que ce soit. Parce que Jésus, il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. C'est lui qui guérit, qui libère, qui console et qui sauve. Sans lui, mes frères, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous sommes condamnés. Nous ne pouvons rien. Et il est venu, c'est pour donner la vie qu'il est venu sur la terre. Et c'est chargé de nos péchés. Dans Ésaïe 53, verset 5, il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce qui est consolant ce matin, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, laisse toujours une brèche, une issue salutaire pour ceux qui le cherchent et qui se tournent vers lui. Ce n'est pas à tout le monde, hein, si vous ne retournez pas. La grâce est disponible, le salut est disponible, mais si vous ne l'acceptez pas, si vous ne le prenez pas, vous allez rester dans le boubier de la condamnation. Dans Deutéronome, pour finir, dans Deutéronome 28, l'Éternel Dieu met devant nous deux types de vie. Une vie de malédiction, une vie de bénédiction. Alors, c'est à chacun de nous de choisir. Si vous voulez vivre une vie de malédiction, plaise à vous. Si vous voulez vivre une vie de bénédiction, plaise à vous. C'est à vous de choisir. Regarde, dans le verset 58 et 59. Voici les conditions. Chaque fois que vous voyez « si », ce n'est pas une bénédiction qui va tomber comme ça. Hein? Il faut les conditions. Deutéronome 28. Le verset 28 et 29. Verset 58 et verset 59. D'accord. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. C'est la condition sine qua non, hein, pour ne pas subir les jugements. Ça, nous étions dans la malédiction. Et regardons ce qu'il a dit dans la bénédiction. Le verset premier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est à chacun de nous de choisir. Moi, j'ai fait déjà mon choix. Parce que la misère, ce n'est pas douce. Hein? La malédiction, ce n'est pas douce. Il n'y a aucun enfant, aucune mère, aucun père qui va appeler son enfant Caïn. Je n'ai jamais entendu ce nom. Pour ne citer que ça. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut vivre dans la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous voulez vivre? Acceptez Dieu. Mets sa parole en pratique et vous vivrez. Vous voulez vivre, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Je souhaite que le Seigneur soit le chef de votre vie. Soyez bénis en marchant selon l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse.